sommes quand même sur un contexte qui, en matière de dimension et d'impact, est un peu différent. Tout d'abord, je voudrais, je ne sais pas si on m'entend avec les micros.
Oui, très bien.
Oui, ça marche. Donc, il y a eu une grande période un peu autoroutière en France. Elle n'est pas terminée. Il y a encore des projets autoroutiers à faire en France. Mais il y a maintenant un projet particulièrement ambitieux, donc de développement des lignes à grande vitesse ferroviaire dans ce pays qui a été pourtant un initiateur à ce niveau et un des précurseurs dans le domaine. Donc on aboutit maintenant que nous avons plus de 1800 km à plus qu'un triplement du linéaire qui est prévu dans la loi. Ce n'est pas une intention donnée par un comité interministériel, en indiquant donc quelles seront même, la loi les listes, c'est la loi Grenelle 1, pour lui, l'ensemble des lignes à grande vitesse ferroviaire qui devront être amenées à équiper la France. Un certain paquet à lancer d'ici 2020, 2000 km, donc plus que le réseau existant. Un autre paquet dont il faut entamer les études, enfin, sans être trop précis sur les délais, ce qui peut se comprendre, mais à un autre horizon et qui totalise 2500 km, donc on arrive à quelque chose d'assez considérable. Ce sont des infrastructures particulièrement structurantes. Nous considérons à la DATA que, après l'effet du réseau autoroutier, qui a modifié fondamentalement non seulement les territoires, mais l'économie nationale dans les années du grand boom autoroutier, disons, je citerai pour faire le tour entre les années 65 et 85-90, aujourd'hui, ce sont les lignes à grande vitesse ferroviaire qui structurent le plus les territoires en matière d'infrastructure de transport. Vous aurez deux grands défis, à mon avis, qu'on va trouver, et pas uniquement en France, mais en Europe de l'Ouest, c'est le développement d'un réseau ferré à grande vitesse et le développement de la couverture numérique des territoires. Ce qui est d'ailleurs, pour nous, complémentaire. En plus, développer des lignes à grande vitesse ferroviaire, c'est tout à fait en convergence des grandes politiques publiques qui sont portées à l'heure actuelle. Et il y en a au moins trois qui vont bien dans ce sens-là. Alors celui, je le disais, je le développerai un peu plus, donc de la compétitivité, de l'attractivité des territoires, parce que ça change assez fortement la donne, justement, avec une notion d'interconnexion des grands pôles européens, les métropoles, qui vont d'ailleurs être une entité qui va se créer en France institutionnellement avec la réforme territoriale, là je passe, mais enfin, il y aura donc des grandes métropoles, qui ne sont pas uniquement des agglomérations, bref, mais là je passe au strict, qui doivent s'interconnecter par donc des liaisons à grande vitesse, et notamment donc, au niveau ferroviaire. Mais au-delà de cet aspect grand réseau et grand nœud européen, il y a tout un enjeu de dessertes intermédiaires. Et de même que les autoroutes le font avec des échangeurs tous les 25 à 40 km selon les cas, les TGV le font aussi avec des arrêts, avec des gares urbaines, pas urbaines, etc. Il y a tout de même un aspect évidemment de dessert des territoires intermédiaires qui est important là-dessus. Donc un enjeu de développement, dynamisation des territoires et qui fait que on le retrouve sur un certain nombre de lignes ici, je ne suis pas entré dans le détail, notamment, mais donc il y a des territoires qui actuellement ne sont pas sur les réseaux à grande vitesse ferroviaire et qui vont justement être innervés par ce type de réseau, donc un enjeu territorial important. Le développement durable, parce que le ferroviaire est électrique. Le TGV, le tout premier, était à diesel, mais enfin là c'est bien électrique. L'électricité en France est relativement propre, donc avec cela on a effectivement quelque chose qui se tient bien sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, sur le plan de l'énergie, ramenée aux passagers, parce que c'est une fonction qui marche bien, que les TGV sont relativement bien remplis en France, donc on a un rapport énergétique intéressant, et aussi sur le plan de la pollution, pas évidemment climatique, mais où en fait il y a assez peu d'effets polluants. La particule numéro 1 qui est générée par le milieu ferroviaire, c'est assez peu connu, c'est pas les NOx, c'est le cuivre, à cause du frottement sur les caténaires. Bon, c'est presque une anecdote. Troisième politique publique, c'est celle de l'emploi, parce que on est là face à un investissement qui est considéré de l'ordre de 53 milliards d'euros. Donc vous voyez qu'en tant que tel, on a derrière cela, si on voulait faire les 4500, donc des enjeux d'emploi en matière de grands travaux qui sont considérables. Il est fort probable, mais ça se passe aujourd'hui, peut-être que les propositions pour le grand emprunt ne retiennent pas cela. Nous avons été auditionnés par M. Juppé et Rocard et évoqué un peu cet aspect-là. déjà, qui est dans Grenelle 1, est déjà suffisamment ambitieux sur ce plan. Alors, qu'est-ce qu'on entend par effets territoriaux d'une LGV? Ça, je vais passer un peu plus vite. Les effets territoriaux ne sont pas les effets socio-économiques indirects au sens du calcul précis. Certains me demandaient si on calculait combien on gagnait de morts avec une autoroute, ce qui se fait en calcul d'économie des transports tout à fait systématiquement. Toutes les grandes infrastructures, y compris autoroutes, font l'objet de ce type de calcul. C'est probablement pas assez connu, c'est possible, mais c'est bien pris en compte, puisque ça fait partie de la rentabilité. Il y a donc ce type de calcul également aussi, évidemment, sur les LGV. En gain de sécurité, moins. En gain de temps, puisque c'est la première valorisation de l'intérêt économique d'une grande infrastructure de transport aujourd'hui, c'est le gain de temps. Et puis également sur les gains environnementaux et les gains divers et variés qu'il peut y avoir. Et la loi d'orientation des transports intérieurs, qui a déjà plus de 25 ans d'âge, disait que 3 à 5 ans après la mise en service d'une infrastructure, autoroute, ferroviaire, on doit faire un bilan, a posteriori, ex post, de ce qu'a été véritablement l'infrastructure et quel a été son vrai trafic, combien a-t-elle réellement coûté en investissement, quel est son coût actuel en matière d'exploitation, etc. Et de manière à faire un bilan qui doit être public d'ailleurs. Il l'est pour les LGV, il l'est évidemment sur les autoroutes également. Et donc ce sont des données d'effet de l'autoroute ou de la LGV. Cependant, ce n'est pas ça donc, qu'on entend directement par les effets territoriaux, même si dans ce travail qui est systématique et nécessité par la loi, il y a des choses intéressantes dessus, notamment en matière de trafic. Quel a été le trafic réel sur le TGV Nord, sur le TGV Méditerranée? Ça, c'est en volume des choses intéressantes. Mais ce qui va nous intéresser plus derrière, c'est qui sont ces gens qui sont dans le TGV? D'où viennent-ils? Voyageaient-ils avant? Par la route, par l'avion, etc. Et c'est un peu tous ces aspects-là. Ce qui va nous intéresser sur le plan territorial pur, entre guillemets, sur les effets, c'est ce qui va se passer donc en matière de type de mobilité, mais aussi conséquences sur le territoire, urbanisme, habitat, économie, tourisme, etc. On va passer en vue un peu rapidement cela. Donc ce qui veut dire qu'on n'a pas aujourd'hui un texte, a fortiori législatif, qui oblige à faire des études d'effets territoriaux des grandes infrastructures. C'est valable en autoroute. Les fameux observatoires dont Jean-François Lambunier vous a parlé font partie d'une volonté, d'une méthodologie, etc. Ce n'est pas inscrit dans la loi. Il y a eu de ce fait une part d'initiatives propres prises par les sociétés d'autoroute qu'il faut tout à fait saluer dans ce domaine-là et qu'elles veulent faire. Il est vrai que ceci peut rentrer après dans leur discours en tant que tel, pour la suite, etc. Ce qui est peut-être moins le cas sur le ferroviaire puisqu'on n'a pas d'opérateurs privés en tant que tel pour le ferroviaire, mais il n'y a pas de nécessité pour le faire. Et ce qui fait que, justement, au niveau des études territoriales de TGV, nous avons fait un balayage bibliographique à peu près de tout ce qui existe depuis 25 ans qu'il y a des LGV en France, il y a relativement peu de choses. On est beaucoup plus pauvre en ferroviaire sur les effets, la mesure, le constat, l'analyse des effets territoriaux des LGV qu'on l'est sur les autoroutes. Alors, ceci est dû à plusieurs choses. D'abord parce que pour faire ce type de constat, et je pense que Jean-François Lambunier a dû vous en parler, c'est du cas des observatoires, c'est aussi ce qu'on fait dans les logiques économiques. On regarde quel est le territoire avant, clac, on plaque un TGV dessus et on va voir ce qui se passe après. Comment les gens ont-ils changé dans leur habitat? Y a-t-il eu plus d'entreprises, etc. Bon, il y a un travail avant-après assez classique en économie qu'on va retrouver à ce niveau. Or, encore faut-il avoir un point zéro, ce qui a été assez rarement fait. Nous travaillons avec des infrastructures particulièrement longues. Ce ne sont pas des sections de 10, 20 ou 10 km, mais ce sont ensuite des choses qui se comptent en centaines de kilomètres, ce qui est beaucoup plus lourd à faire et il y a eu assez peu de choses. Le premier véritable observatoire territorial ou socio-économique des LGV, c'est la LGV Est, qui a été mise en service il y a 2 ans, donc c'est quand même très récent, et encore qui n'est pas d'une coordination idéale tout le long de l'itinéraire.
Excuse-moi, je croyais me rappeler que l'aide de Lyon avait fait, ce que je l'ai dit tout à l'heure, alors peut-être que je me suis trompé, mais une observation des effets du Paris-Lyon d'abord, il y a longtemps.
Oui, alors il y a eu des études, attention, je ne dis pas qu'il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu d'observatoire en tant que tel, et il y a eu des études, dont on va d'ailleurs s'inspirer, je ne rentre pas dans le détail dessus, qui ont été faites sur les effets territoriaux d'un certain nombre de LGV, oui. Mais en tant qu'observatoire systématique, il n'y a pas eu d'observatoire sur Paris-Lyon.
C'est pas institutionnalisé comme un observatoire.
En tant que tel, avec la pérennité, suivi avant, après, etc. C'est un travail qui a été refait, reconstituant, analysant, reprenant un certain nombre de données qui existaient le long de la ligne. Ce qui est d'ailleurs plus facile sur les corridors relativement suivis, à titre géographique ou économique par ailleurs, notamment par les routiers déjà, d'ailleurs, qui souvent sont passés par les corridors avant, que dans un certain nombre d'autres territoires neufs qui sont traversés nouvellement par FGV. La FGVS, par exemple, bon, à part effectivement le Tour de l'Est, qui fait l'objet d'un peu d'études dessus, mais on a finalement moins de données sur un certain nombre de lignes. Mais maintenant, sur les nouvelles lignes, là, c'est quelque chose que nous poussons et qui commence à se systématiser. Il y a une grosse opération donc, que mène Réseau Ferré de France sur la ligne Sud-Europe-Atlantique. Hein, les TGV, je reviens sur ma carte, qui font tour Bordeaux, ensuite avec Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Bayonne et puis Poitiers-Limoges. Tout ça, c'est le paquet Sud-Europe-Atlantique. Donc là, il y a un observatoire qui se met en place là-dessus. De même que Bretagne, pays de la Loire, également fait l'objet de travaux actuellement que mènent les Bretons. Et sur les attentes au niveau territorial de cette ligne. Mais bon, c'est assez difficile et il y a des difficultés méthodologiques sur ce genre de choses assez classiques, qui étaient déjà celles qu'on trouve d'ailleurs sur le plan autoroutier, mais peut-être davantage. C'est-à-dire il y a un décalage entre les effets territoriaux et la mise en service. Il faut un certain temps pour le faire. Déjà sur le plan des mobilités, tout le monde ne change pas tout de suite sa façon de faire. On attend de voir quels sont les horaires précis, si ça marche bien, comment ça se passe, etc. Donc il y a un aspect un peu d'attente à ce niveau. Mais sur le plan habitat, sur le plan implantation d'entreprise, ce sont des choses qui peuvent prendre des années. Or, plus le temps passe, deuxième difficulté, plus il est difficile d'imputer que ça y est, l'entreprise machin s'est installée parce que c'est une ville TGV, TNGV était là il y a 3 ans. Donc l'imputation est difficile et derrière ça, évidemment, il faut après arriver à faire des sortes de distinctions assez subtiles et qui ne sont pas toujours évidentes. Alors, mais au-delà de ça, la grande dominante que l'on pourrait citer déjà, c'est qu'effectivement, il s'avère que les LGV sont bien des infrastructures structurantes au niveau du territoire. Il y a des modifications assez profondes du territoire grâce au LGV, et ça, pour nous, c'est quelque chose d'important, et on va le retrouver sur toutes les nombreuses LGV à construire. Ce qui nous amène justement à devoir nourrir un message, des arguments pour les collectivités qui vont se faire impacter, dirais-je, ou desservir par les nouvelles LGV. Des recommandations, des éléments de ce genre, parce qu'on va avoir évidemment pas mal de nouveaux territoires qui vont connaître cet aspect des LGV, et plus qu'il n'y en a actuellement, et ce sont des effets qu'il faut savoir anticiper. Les villes LGV ont gagné, en général, ont gagné en image en tout cas, là je suis très général, en attractivité, parce qu'en accessibilité, je reviendrai, il faut distinguer le TGV de la LGV. Je vais vous en parler juste après. Les régions autour des villes peuvent gagner aussi, elles en accessibilité générale. Alors là, c'est de même que l'autoroute avec ses échangeurs doit bien être suivie par un système de réseau départemental pour aller chercher l'échangeur, etc. Il y a donc toute une série d'interconnexions et d'intermodalités qu'il va y avoir entre les gares TGV, les TER et les transports en commun. Et il faut savoir que pour les lignes qui existent déjà là-dessus, il y a eu des flops. Il y a, et ça on le dit, il y a des effets négatifs des TGV sur les territoires. Ça n'est pas systématique, ça c'est le message qu'on peut dire dessus, bougez-vous d'abord, organisez-vous avant que ça vienne, etc., faites-le, mais le principe est de dire, n'allez pas croire pour autant que ce sera positif, au pire nul. Il y a des cas nuls de territoires qui n'ont pas tiré profit des TGV. Mais il y a des cas qu'on pourrait considérer comme négatifs. Il y a eu des investissements qui n'ont servi à rien, qui correspondent à des dépenses complètement inutiles par des collectivités qui n'ont pas vu quel pourrait être l'effet territorial, l'effet économique que pouvait avoir le TGV et qui se sont trompés, fourvoyés. Ça coûte assez cher. Et puis, il y a un certain nombre de collectivités qui n'ont pas su tirer parti, qui n'ont pas fait comme il faut et qui, de ce fait, maintenant, en pâtissent plus ou moins. On fait plus la publicité des cas positifs, mais il faut quand même indiquer, même si je ne citerai pas de nom, je ne suis pas là pour faire ça, il y a des cas négatifs. Distinguer les TGV des LGV, pourquoi? Parce que il y a là une distinction assez forte qu'il faut avoir, et ça c'est plutôt récent, hein. On n'avait pas ça dans les premières lignes bien sûr, mais on les a maintenant. De plus en plus, la SNCF pousse les TGV, à la demande essentiellement des collectivités, bien au-delà des lignes à grande vitesse, qui sont des lignes dédiées, sur lesquelles un train peut rouler à au moins 250 km/h, c'est le minimum en France, bon, pour pouvoir parler de grande vitesse proprement dit, donc ligne nouvelle, hein, il n'y a aucune ligne ferroviaire actuelle qui puisse passer en LGV, on est bien dans du neuf, c'est fait vraiment pour cela, mais ceci dit, les TGV en tant que tels peuvent quitter la ligne à grande vitesse et continuer, voire finir leur parcours sur des lignes normales, heureusement. Nous ne sommes pas sur des technologies. Je pense notamment au Maglev, qui est un système à grande vitesse ferroviaire à sustentation magnétique, qui existe par exemple à Shanghai ou dans quelques cas de figure, qui sont des technologies sur rails spécifiques et qui fait qu'elles ne peuvent rester que sur leur infrastructure nouvelle. Il est impossible de pouvoir partir sur le réseau existant. Ce sont des grands choix pour des pays qui avaient à s'équiper à ça, Amérique du Sud et surtout sur la Chine. Finalement, on prend ce qu'on appelle la technologie qui permet à ce moment-là de pouvoir profiter du réseau ferroviaire existant, en réserve d'écartement, etc., pour pouvoir poursuivre. Et ce qui fait que, finalement, donc, beaucoup de gares françaises reçoivent tous les matins et tous les soirs des TGV et peuvent se dénoncer comme étant, finalement, des villes TGV. Sur 250 gares TGV, en enlevant les étrangères, ça fait environ 200 gares TGV qui existent en France, il n'y en a que environ 25 qui sont sur la LGV. Les autres reçoivent des TGV qui ont quitté la LGV pour arriver jusqu'à leur gare. Parce que c'est clair, vous voyez ce qu'il en est. Bon, mais ce qui veut dire qu'on peut avoir des choses qui peuvent se faire avec des parcours sur le réseau classique beaucoup plus longs que sur le réseau à grande vitesse. Donc on annonce, j'ai un TGV qui arrive le matin, on peut dire ça à Brest, on peut le dire, à Limoges, enfin j'ai d'autres exemples, il y a des TGV qui arrivent à ce niveau-là, mais il faut voir à quelle vitesse, il faut voir à quelle fréquence, on n'est pas dans des systèmes de LGV en tant que tel. Alors ça modifie un petit peu les choses parce qu'évidemment il faut faire la distinction et y compris la promotion territoriale, c'est maintenant une chose qu'il faut prendre en compte. Alors les gares TGV, même chose, on a aussi un phénomène un peu plus nouveau aussi qui s'est développé, qui est celui de la gare en ligne. Avant, les gares TGV étaient les gares qui allaient au centre-ville et c'était la gare ferroviaire historique qui existe et où maintenant. Donc, les TGV arrivent et partent tous les jours. Bien. Il se crée donc sur la LGV, qui elle ne rentre pas pour des raisons évidemment géométriques et d'insertion dans la ville elle-même. Il se crée donc des gares qui se positionnent sur la ligne elle-même, en tant que telle. On les a souvent appelées des gares d'interconnexion, parce que c'est là qu'on prend des TGV d'interconnexion. Peut-être que je sois un peu plus clair, c'est pas tout évident, mais je n'ai pas, hélas, de schéma pour pouvoir l'indiquer. Comment dire ? Initialement, les LGV étaient bien des lignes paris-centriques, arrivant sur Paris, et qui, vous savez, est une ville qu'on ne traverse pas et dont les gares sont des terminus, au moins aujourd'hui. Peut-être qu'on va avoir finalement des liaisons entre gares parisiennes, mais aujourd'hui, c'est le cas. Bien. Donc, on allait sur Paris à ce niveau-là, et il n'y avait pas d'interconnexion proprement dite. C'est créé maintenant des contournements de Paris. Vous l'avez avec une interconnexion ouest qui fait, par exemple, vous faites du Lille-Lyon sans passer par une gare parisienne. Bien. Ça, c'est l'interconnexion. Une belle gare d'interconnexion qui marche bien, c'est Roissy, par exemple. Donc, on peut faire avec le TGV Est, etc., du Rennes-Strasbourg sans passer par une gare parisienne. Vous voyez, ces types de trains qui font ça, le Havre-Lyon, etc., bon, qui prennent des interconnexions Est, Nord, Ouest, et puis bientôt il y aura une vraie interconnexion sud qui sera pas celle du RERC, eh bien, créer donc des liaisons province-province, si vous voulez dire, qui ne concernent pas Paris, qui ont souvent un arrêt dans une gare près de Paris, Roissy, Massy-Palaiseau, etc. où là, d'ailleurs, vous avez un certain nombre de banlieusards, si je puis dire, voire de Parisiens, qui viennent prendre le train. Ces trains, en tant que tels, normalement, ne rentraient pas dans les gares intermédiaires qu'il peut y avoir. Il est fait qu'un TGV qui rentre en gare, faut que je prenne un bon exemple, qui ne me vient pas tout de suite en tête, Reims, allez, mais justement, c'est un train qui rentre en gare de Reims, un TGV qui rentre en gare historique de Reims, en tant que tel, n'est pas un TGV d'interconnexion. Il ne va pas de là repartir de Reims pour aller à Strasbourg alors qu'il vient du Havre. Ces TGV restent, si vous voulez, sur les LGV. Donc, si vous voulez avoir accès à cette ligne, il faut que vous alliez sur le LGV pour attraper le train au passage. Je ne sais pas si c'est très clair. Et donc, ces principes de gare d'interconnexion se sont développés et ce sont des gares ex-urbanisées sur la ligne qui ne rentre pas en ville et qu'il faut aller chercher à l'extérieur. Plus ou moins loin, d'ailleurs. Alors, vous avez des superbes exemples. Maintenant, par le TGV Méditerranée, c'est Valence, c'est Aix-en-Provence, c'est Avignon. Dans ces cas-là, justement, vous avez les deux cas de figure. Vous avez des gares ex-urbanisées qui sont d'ailleurs sur la ligne de Marseille, etc. Je prends le cas de Valence. Vous pouvez faire du Paris-Valence, vous arrivez en gare centrale de Valence. Il y a des TGV qui rentrent dans Valence. Mais une grande majorité des TGV qui s'arrêtent à Valence continuent sur Avignon et Marseille et donc ne rentrent pas dans Valence, ils s'arrêtent à la gare de Valence TGV, qui est à plusieurs kilomètres à l'extérieur de Valence. Même chose pour Avignon ou sur Aix. Alors ça, c'est quelque chose qui, sur le plan territorial, est assez nouveau, parce qu'on ne l'avait pas initialement, évidemment, sur Paris-Lyon et des choses de genre, et donc qui va aussi modifier assez fortement l'impact urbanistique, l'impact territorial. Et il y a évidemment des choix, c'est-à-dire que les collectivités, les maires sur place préfèrent une gare qui rentre en ville, dans la gare historique, j'ai mon TGV, vous savez, et ça va faire partie justement de la promotion de ce qu'il peut y avoir. Ils ont un sentiment de méfiance à externaliser la gare si on la trouve à l'extérieur. Vous allez avoir des villes, notamment je pense au TGV Rhin-Rhône, qui n'auront que des gares extérieures. Belfort n'aura pas de gare de TGV en gare. Ce sera à l'extérieur, il n'y a pas de gare à l'intérieur. Bon, il y a des systèmes mixtes, c'est d'ailleurs ce qu'on préconise, c'est bon, peut-être ce qui est le plus cher, mais c'est ce qui est le plus complet. C'est le cas de Reims, par exemple, où vous avez donc des TGV qui rentrent en gare de Reims, mais il y a une gare qui s'appelle Reims-Besanne, Reims-Champagne, qui est au sud de Reims, qui tangente, qui est à l'extérieur, et qui, elle, est sur la ligne, qui passe au sud de Reims. On a les deux cas de figure. Et avec un bon tramway comme le font les Rémois à l'heure actuelle, vous avez quelque chose de particulièrement puissant. Et donc, vous avez accès à des lignes qu'on ne peut pas avoir si le TGV rentre en ville. Donc, avoir une gare à l'extérieur, c'est plus puissant en matière de réseau, pour faire court. Mais par contre, en matière d'image, c'est jugé quand même un peu moins. Alors, on fait une typologie sommaire un peu à l'issue de cela, mais ça, je ne viens pas trop dessus, qui montre que finalement, quand on est une grande agglomération, on a mis la barre en gros à 200 000, mais ça, c'est un peu arbitraire. Une gare centrale, une gare en ville, elle peut être effectivement quelque chose tout de même d'intéressant pour l'activité économique, pour les conséquences urbanistiques qu'il pourrait y avoir à ce niveau-là, avec donc la possibilité d'un complément, comme je le disais, sur Reims. Pour les villes moyennes, c'est plus délicat, et ça dépend. Donc, je vais citer Belfort, on est mis à ce niveau-là, et on va le retrouver sur d'autres villes, par les diverses lignes qu'il peut y avoir. Bon, c'est la discussion qui se fait en ce moment sur Bayonne, par exemple, position de la gare, extérieure ou intérieure, bon, dessus. Donc là, là, ça va dépendre. Ce qui compte, c'est l'accessibilité dessus. Quand vous êtes sur des villes plus petites, il est fait qu'une gare ex-urbanisée peut être plus intéressante parce que vous n'êtes pas le seul pôle intéressé par cela, et qu'il peut y avoir pas mal d'autres pôles dessus. Un inconvénient, évidemment, de la gare en ville, c'est que si vous n'habitez pas la ville, et que vous êtes dans une ville secondaire, il faut que vous rentriez le matin dans la circulation de la ville, vous prenant les pieds dans le domicile de travail là-dessus, tout ça pour aller chercher votre TGV, pour pouvoir être à Paris, à votre réunion, etc. Et là, donc, il y a un problème d'accessibilité à la gare, beaucoup plus fort et plus difficile que si la gare était à l'extérieur avec les bons transports collectifs ou des bons parkings pour pouvoir y aller. Alors, assez vite, un peu les types d'effets sur Parthène. Bon, sur les mobilités, quels sont les effets TGV qu'il y a là-dessus? Il y a plus de mobilité après un TGV qu'avant. Ça dynamise la mobilité et il y a un effet d'induction de trafic important. L'induction de trafic, ce sont donc des trafics et des déplacements qui ont lieu parce qu'il y avait le TGV, mais qui n'avaient pas lieu avant, des gens qui ne bougeaient pas avant. Vous l'avez à titre professionnel, ça c'est très clair, parce qu'à partir du moment où vous avez un accès rapide, vous irez plus facilement en réunion, ceci, vous ferez venir des gens, etc., et vous organisez des choses. Vous l'avez à titre de loisir, à titre personnel, où vous irez voir votre belle-mère plus facilement, parce que maintenant, en 1h30, c'est facile, alors qu'avant, c'était plus compliqué. Enfin, belle-mère ou autre, évidemment, c'est ce que vous voulez. Hein, mais ça joue. En tourisme, évidemment, etc. Donc, on peut avoir des taux qui vont jusqu'à 30%, jusqu'à presque un passager sur trois dans le TGV peut ne pas voyager avant, ne pas avoir voyagé. C'est quand même des taux d'induction particulièrement forts. Il y a des reports qui se font, des reports sur l'avion, très certainement, on l'a constaté sur Paris-Lyon, même si, en effet, il y a toujours un trafic qui existe, qui se développe, on l'aura de plus en plus sur, en report du transport. C'est d'ailleurs une volonté très nette du gouvernement. Si on peut, non pas tuer, ce serait beaucoup négatif, mais enfin, supprimer du trafic aérien intérieur grâce au TGV, tant mieux, le gouvernement applaudit les deux mains. Mais si j'étais évidemment en charge de l'aéroport de Strasbourg, par exemple, qui souffre énormément depuis que le TGV, il y a depuis 2 ans, est là, je me pose des questions. Et ça, c'était des choses relativement prévisibles. Il faut après, quand on est ville de Strasbourg ou gestionnaire à ce niveau-là, anticiper ce genre de choses. Et ça, ça fait partie de la règle du jeu sur le plan du report. Alors le report avec l'avion marche assez bien sur des tranches qui s'allongent de plus en plus. Avant, c'était le soir de 3 heures. C'est-à-dire, si le train mettait plus de 3 heures, on prenait l'avion. Il s'avère, et SNCF le constate aussi, on avait fait des études qui ont été faites à la fois par l'aviation civile et la SNCF, maintenant on est sur 4 heures et on peut aller encore au-delà. Il y a un effet continuité au niveau du TGV, il y a un effet pratique justement si c'est en plus en gare centrale par rapport à la gare ex-urbanisée, vous arrivez directement en ville, bien sûr. Vous pouvez travailler dans le TGV, c'est pas toujours évident, hein, avec le dossier du gars devant quand vous êtes dans un avion moyen courrier, donc les possibilités de confort qui interviennent là-dessus, évidemment les accès, toutes les ruptures de charge, le bagage, etc. Mais bon, sans parler des familles, la poussette et autre chose, enfin, tout ça fait en sorte que l'attrait propre modal du train par rapport à l'avion augmente dans ces vols intérieurs. La tarification peut jouer, évidemment, elle l'a fait. La question des correspondances va jouer également, surtout si vous n'êtes pas directement en ville à proximité de cette gare et qu'il vous faut des transports urbains, voire des TER pour aller jusque-là. Mais ce que je veux dire rapidement, c'est que nous constatons, nous faisons deux seuils, un seuil à 3 heures et un seuil à 2 heures, qui rentrent dans l'attractivité propre des villes TGV. LGV, pour être même plus précis, si possible. 3 heures. Si vous êtes à moins de 3 heures, ça c'est du bon sens et vous le vivez là-dessus, à moins de 3 heures, vous faites l'aller-retour dans la journée. Si vous avez une réunion à pouvoir faire, bon, à titre familial c'est plus dur, à titre professionnel c'est plus le cas, en effet, on trouve une attractivité économique beaucoup plus forte sur une ville qui maintenant est à moins de 3 heures. Par cet aspect, aller-retour dans la journée, donc je ne reprends pas, je ne suis pas obligé de venir la veille pour commencer ma réunion le matin ou l'inverse dans l'autre sens. Et ceci augmente assez fortement. La stratégie propre d'entreprise, les succursales, les congrès, les séminaires, etc., tout cela va jouer maintenant. Donc, nous faisons cette barre dessus et un des éléments qui va jouer, c'est le nombre de villes qui se situent par l'effet réseau du TGV à moins de 3 heures de la ville qui va être nouvellement desservie. L'autre barre est à 1 heure. 1 heure, on constate en effet qu'il y a là une attraction en matière de déplacement domicile-travail fort, et là on est sur de l'induction. Et c'est une induction à double tranchant. C'est là aussi qu'on a des effets qui peuvent être des effets négatifs forts. Donc avant, vous étiez à 1h30, 2h de la métropole, hein, je reste très général dessus, donc on allait de temps en temps, le TGV vous amène à 3/4 d'heure. En 3/4 d'heure, vous pouvez être amené à pouvoir prétendre avoir un boulot dans cette grande ville qui est là, et vous resterez traditionnellement dans votre lieu d'origine. Ça, c'est un moyen qui est vite su, et par ce biais, c'est faisable. Vous habitez la métropole et vous pouvez maintenant prétendre avoir le pavillon avec la tondeuse et le portique à 3/4 d'heure du lieu qui était votre travail dessus. Vous quittez votre appartement et vous allez maintenant vous mettre en pavillonnaire. Ça, c'est évidemment le cas qui existe assez souvent, donc à l'inverse, par fiable. Hein. Tout Paris, c'est, on l'estime, environ 5000 personnes qui sont concernées chaque jour par ce type de choses. C'est pas rien à la dimension d'une ville comme Tours. Même si tout le monde ne rentre pas le soir, mais il s'avère d'ailleurs dans les études qui sont faites que un certain nombre donc, d'habitants de Tours, habitants et allant travailler tous les matins à Paris, préfèrent quand même rentrer le soir pour pouvoir être chez eux en pavillonnaire et avoir une qualité de vie, à fortiori le week-end, même s'ils rentrent plus tard chez eux le soir. Mais plutôt que d'avoir un pied-à-terre à Paris, un hôtel ou autre chose, avec toutes les complications que ça peut avoir, problèmes familiaux, etc. Alors au début, on peut considérer, et c'était plutôt ce que pensaient les sociologues, que ce serait provisoire, le temps de trouver un job et puis après d'essayer d'avoir quelque chose sur tout, et revenir. Non, les gens continuent et prennent une pratique dessus. Et vous avez même des entreprises qui vont payer un ordinateur portable et font en sorte qu'à partir du moment où vous prenez votre TGV le matin pour aller travailler, ça compte déjà en heure de travail. Donc, tout ça facilite aussi les choses, puis vous passez vos mails, vous faites des choses. Bon. Alors tout ça, ces phénomènes, évidemment, jouent beaucoup à ce niveau. Et cette notion de une heure, du seuil d'une heure, est importante. Des villes, je reprends le Cabrasse, qui n'est plus qu'à trois quarts d'heure de la gare de l'Est, a un changement économique considérable. Grâce à ce type de lien. Il y en a un qui va devenir majeur et encore plus important, c'est Perpignan, qui, pour le moment, si vous voulez, avait une vision quasiment orientée vers Montpellier, vers etc., et qui va se retrouver à trois quarts d'heure de Barcelone. Chose qui est actuellement inenvisageable pour un Perpignanais. Donc il va y avoir là-dessus des changements assez importants. Je passe vite. Sur l'habitat, assez peu finalement d'effets, moins d'effets qu'on pouvait considérer souvent ou imaginer en tant que tel. Il y aura des effets habitat autour de la gare. Ce qui est directement imputable à l'arrivée TGV est difficile à dire parce que quasi systématiquement, les villes organisent une vaste opération urbanistique à l'occasion de l'arrivée de la gare, du TGV, dans le quartier de la gare. D'abord, parce que primo, les quartiers de gare historiques sont rarement les plus valorisés de la ville. Historiquement, c'est pas joli, il y a des tas de terrains derrière, un habitat, une façon de faire, des services qui n'étaient pas les plus brillants, et les quartiers de gare sont rarement les plus renommés historiquement. Le TGV arrive, on veut faire une opération forte, moderne, et c'est un déclencheur qui permet une opération d'urbanisme voulue par les collectivités, et il y en a de superbes qui sont à ce niveau-là, et qui va donc, en fait, générer tout cet ensemble là-dessus. Pensez à l'île d'Europe, pensez à ceux-là sont des exemples peut-être les plus brillants, mais il y en a bien d'autres qui existent derrière ça, de réaménagement, on prie au niveau simplement du quartier de la gare, on reprend des terrains, on réhabilite, on fait des choses. Et ça, c'est cet ensemble qui est là. C'est une très bonne chose, d'ailleurs, que ce soit un déclencheur. Il faut que ça se fasse, d'ailleurs, suffisamment tôt pour pouvoir le faire. Alors, c'est pas uniquement l'habitat, c'est plutôt l'immobilier, déjà, et parce que ça va concerner en général un peu plus le professionnel et des offres de bureaux et des offres de services, voire des offres de commerce, que de l'habitat en tant que tel, qui a quelques effets aussi, mais pas aussi important que cela. En matière d'image, alors là, oui, l'effet image, ça joue beaucoup, ça a beaucoup joué. Donc, je suis une ville TGV, j'ai 4 TGV qui, tous les matins, seront sur Paris, je suis à 2 heures de Paris. Donc, monsieur l'entrepreneur, venez chez moi. Nos cadres seront là, vous voyez, en peu de temps, ils peuvent être à Paris, en peu de temps, ils seront plus tard à Bordeaux, à que sais-je, etc. L'argument connectivité, accessibilité, etc., est un argument territorial fort. Toutes les grandes collectivités, vous l'entendez aussi maintenant, se dotent de marketing territorial, fait par des agences professionnelles qui montent ça. Hein, on en a des campagnes de temps en temps dessus. Et donc, sur ce plan, ça se fait. On l'a vu. On l'a vu à l'occasion du TGVS, on le reverra dans d'autres cas, un certain nombre de collectivités ont anticipé même l'arrivée du TGVS avec des campagnes très fortes en indiquant que maintenant les entrepreneurs viennent parce qu'on n'est plus qu'à trois quarts d'heure de Paris quand on est à Reims, à une heure et demie quand on est à Metz ou à Nancy, etc. On le retrouvera autour des grandes lignes sur ce qui va se passer aussi dans les autres villes qui vont maintenant se retrouver avec des distances beaucoup plus courtes. Cet aspect de valorisation, qui est très bien, parce que cette question d'image et même de marketing va effectivement créer des effets économiques en soi, commence toutefois à s'éroder parce que, comme je vous l'avais vu sur la carte avant, il y a maintenant déjà des villes qui ont des TGV. Et l'argument, c'est pas ça y est, j'ai un nouveau TGV qui va arriver, qui est un argument fort. D'ailleurs, demain, il y a une grande réunion à Clermont-Ferrand sur le futur projet du Paris, Orléans, Clermont, Clermont-Lyon. Et il y a une opération marketing faite où il y aura un TGV qui va rentrer en gare de Clermont. Un vrai TGV comme il faut. C'est une chose que, si je puis dire, le Clermontois n'a pas vu dans sa gare. Ça, il n'y a pas de TGV à l'heure actuelle en tant que tel. Donc il est fait que là, il y a un effet qui va jouer. Enfin, les TGV arrivent. Mais beaucoup de villes ont déjà des TGV. Et en fait, l'argument n'est plus dans le fait qu'on a des TGV qui peuvent arriver, mais c'est que la fréquence et la durée est beaucoup plus attractive. Les retombées économiques du TGV, donc ça c'est évidemment un point qui paraît essentiel, et qui pour autant est celui qui est peut-être le plus difficile à appréhender. Essentiellement pour les raisons et les difficultés méthodologiques que je citais tout à l'heure, c'est que d'abord les effets sont assez tardifs et il y a un décalage. Ce qui est dommage, mais on est sur quelque chose aussi qui peut se comprendre. On demande, et un certain nombre de territoires l'ont fait, d'anticiper. Donc, ils se vendent avant que le TGV n'arrive. Vous allez voir, ils venez vous implanter, dans 2 ans j'ai un TGV, etc. Ceci a fonctionné et donne des effets d'anticipation qui sont intéressants. Sur le plan foncier, parfois ça peut poser quelques problèmes, mais globalement, ça améliore et ça renforce déjà l'image territoire et de la ville avant même que le TGV arrive. Cependant, les études ont montré que les milieux économiques sont devenus de plus en plus prudents. Vous me dites, monsieur le maire, qu'effectivement, j'ai un TGV dans 2 ans. Écoutez, moi, vous savez, j'attends de voir. Hein, parce que par les temps qui courent et quand on voit ce qui se passe, si je commence à installer ma succursale et à mettre ça, hein, du coup, ça peut être encore dans 8 ans, dans 10 ans, et ça. Donc, on attend de plus en plus que ce soit véritablement réel. S'il y a le chantier, là, ça commence à venir. Si c'est évident, c'est en service, là, on va bien regarder les choses. Et on a un effet, d'ailleurs, qui est souvent un effet de repositionnement des entreprises locales, qui est important à côté de celui de l'implantation nouvelle d'entreprises. Voilà pour ces points-là. Alors, je voulais dire qu'il y a des effets de connexion, en effet. Et des contre-exemples, ceux-là je les cite, de villes qui ne sont pas des villes LGV, mais des villes qui marchent bien, enfin, globalement. Nantes, Grenoble n'ont pas de LGV. De LGV qui vient. Et de ce fait, on peut dire que ça n'est pas une nécessité absolue en matière de dynamisme territorial d'avoir une LGV. Toutefois, les choses sont à relativiser fortement, parce que ces deux contre-exemples qui sont souvent cités, de Nantes et Grenoble, profitent. C'est directement tout de même les LGV, parce qu'il y en a, sur Lyon, on peut remonter après avec donc, les données sur Grenoble, et donc ça donne des temps de parcours qui évidemment ont profité de la LGV en amont, même chose sur Nantes aussi, et donc cette accessibilité est quelque chose qui reste très importante. La notion de réseau se développe aussi, c'est-à-dire qu'on n'est plus uniquement en disant je suis à X heures de Paris, on va l'être avec une démultiplication forte à partir du moment où le réseau va se mailler. Et les liaisons province-province vont se développer et devenir territorialement plus importantes que celles de l'accès sur Paris. À une différence près, c'est celui du système aéroportuaire et donc de l'accessibilité sur les liaisons transcontinentales. Et que l'accès propre sur Paris qui permet de pouvoir prendre son avion sur Atlanta est quelque chose qui est encore, qui restera encore assez longtemps un argument important. Mais on va retrouver ça aussi donc sur le plan de l'attractivité de la ville sur différents points, y compris au niveau touristique, culturel, scientifique. Ceci a beaucoup d'effet réseau, notamment pour accueillir des milieux estudiantins, des milieux de recherche, est quelque chose d'important. Ça, on retrouvera justement cette valorisation de la recherche, y compris d'ailleurs par les annonces sur le grand emprunt. Donc je finis avec ce qui n'est que les premières conclusions qui rejoignent que celles de Jean-François Mier. D'abord, le TGV n'est pas une fin en soi. Demander un TGV, non. Demander une LGV, c'est déjà mieux, si je puis dire. Mais en soi, ça ne suffit pas. Il n'y a pas de caractère automatique. Il ne faut pas pouvoir dire, ça y est, elle va arriver, donc de là, vous allez voir ce que vous allez voir. Il faut effectivement être amené à anticiper. Ça, on le dit, mais très en amont. Alors, on a des annonces maintenant. Quand même des choses qui sont dans la loi. Bon, ça laisse entendre tout de même assez fortement que ça a des chances de se faire. Ce qui permet donc assez en amont de pouvoir s'organiser pour cela. Et puis donc de se concerter et sur le plan en effet des collectivités, c'est important. Mise en place d'un observatoire, la notion des gares, je l'ai cité là-dessus, elle est importante et elle fait l'objet maintenant de discussions de plus en plus longues. Et puis le fait que si on est bien dans un ensemble au niveau territorial, bien pensé, suffisamment en amont et entre gens qui veulent bien se parler, et souvent le TGV peut être une occasion de fédérer ça, on a à ce moment-là des infrastructures particulièrement structurantes.